Merci à Anne et François d'avoir accepté.
Avec plaisir.
Très bien.
On va peut-être se présenter.
Vas-y, présente-toi.
Alors François, je pense que tout le monde connaît François. François est donc diacre, il est médecin. François a comme mission dans son diaconat la maladie de l'alcool. Voilà, nous avons 6 enfants, 11 petits-enfants. Pour ma part, je suis également médecin, je suis spécialisée en échographie. Par rapport à notre sujet, deux parties qui me concernent peut-être un petit peu plus particulièrement, ça a été le diagnostic anténatal et puisqu'aujourd'hui je participe également à la procréation médicalement assistée. Voilà.
Dès son introduction, dans son exhortation apostolique « Les tâches de la famille chrétienne », Jean-Paul II insiste sur l'importance du mariage et de la famille. Et il nous dit « Voulu par Dieu en même temps que la création, le mariage et la famille sont en eux-mêmes destinés à s'accomplir dans le Christ », en citant Genèse, les deux premiers chapitres, et Éphésiens, le cinquième.
François et moi avons été appelés au mariage et avons choisi, probablement dans un contexte culturel et familial porteur, de demander ce sacrement. Le prêtre qui a célébré notre sacrement de mariage nous a fait en cadeau un livre du père Caffarel qui a fondé les équipes Notre-Dame. Et nous sommes donc membres des équipes Notre-Dame depuis un an après notre mariage, soit pas mal d'années, plus de 30 ans en tout cas. Nous essayons de vivre ce sacrement avec d'autres couples d'âge varié, en priant et en réfléchissant ensemble tous les mois autour d'un repas partagé. D'autres couples chrétiens choisissent de se marier civilement et d'attendre avant de demander le sacrement de mariage. Et nous pouvons témoigner de la sincérité et de la profondeur de la réflexion de certains d'entre eux, notamment dans l'équipe tandem que nous accompagnons.
Alors oui, on accompagne une équipe tandem dont l'inspiration vient des équipes Notre-Dame. Les équipes tandem sont des équipes de couples qui ne sont pas forcément mariés. Certains le sont. Et pendant 2 ans, on réfléchit un petit peu. Surtout, c'est une réflexion sur la vie de couple et sur ce dont on a besoin pour avoir une vie de couple harmonieuse.
Nous prions ensemble et nous partageons autour d'un repas de la même façon. Nous pouvons lire dans Matthieu, « Maître, quel est le plus grand commandement ?» Jésus répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le grand, le premier commandement. Un second est aussi important, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Nous sommes appelés à désirer Dieu comme il nous désire. C'est la même vocation pour tous les chrétiens. Pour les couples plus particulièrement, les équipes Notre-Dame nous proposent de prier quotidiennement en couple et en famille. Nous sommes appelés à faire oraison tous les jours et nous lisons la parole de Dieu tous les matins ensemble. Nous sommes appelés à découvrir Dieu au plus profond de nous. Jérémie, le prophète Jérémie, dans le chapitre 31, nous dit « Oracle du Seigneur, je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes, les inscrivant dans leur être. Je deviendrai Dieu pour eux, et eux, ils deviendront un peuple pour moi. Ils ne s'instruiront plus entre compagnons, entre frères, répétant « Apprenez à connaître le Seigneur, car ils me connaîtront, tous, petits et grands. Oracle du Seigneur, je pardonnerai leurs crimes, leurs fautes, je n'en parle plus. » Nous nous sommes posé la question du sens de ce texte et il nous semble que c'est probablement la source de notre conscience. S'aimer soi-même. Dans la première lettre de Saint Jean, je vous la lis, « De crainte, il n'y en a pas dans l'amour, mais le parfait amour jette dehors la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est pas accompli dans l'amour. Nous nous aimons parce que lui, Dieu, le premier nous a aimés. Dieu nous crée à son image et il attend. Il désire notre choix. de l'accompagner pour devenir sujet et acteur de nos vies. Vois, lit-on dans le Deutéronome, vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Le Seigneur ne nous donne aucune obligation. Il nous demande un choix libre et personnel. Aimer l'autre comme soi-même. Le bon samaritain accepte la relation et il aime. Ceci introduit notre vocation relationnelle avec nos frères et sœurs en humanité, que nous sommes appelés à aimer en faisant route avec eux, et non dans une relation condescendante, mais dans une relation d'égal à égal. Nous pourrions être elle ou lui, et lui pourrait être nous. Ça, c'est philia. En fait, trois dimensions dans l'amour. Philia, eros et agapé. Dieu aime de façon parfaite, c'est l'agapé. Philia, c'est l'amour amitié. Pour parler de ce mot philia, on a pensé au texte de Saint Jean, chapitre 21, où Christ interroge Saint Pierre, « M'aimes-tu ?» Et le mot qui est employé, c'est agapé. Seigneur, Pierre, agapé, et Pierre répond « philia ». Dieu nous demande un amour parfait et Pierre répond un amour d'amitié. Pour la deuxième fois, le Christ demande à Pierre agapé et Pierre répond philia. Et à la troisième fois, le Christ emploie philia et Pierre reprend philia. Comment interpréter cette affaire ? C'est bien difficile pour nous d'arriver à l'agapé. Et que le Christ nous prend là où nous sommes, me semble-t-il, c'est-à-dire dans la possibilité d'une amitié qu'il faudrait qu'on arrive à trouver, qui nous permette de nous tourner vers l'agapé, l'amour parfait. Et nous, couple chrétien, nous sommes appelés à l'éros, vers l'agapé de la même façon. Le cantique des cantiques, « Mon chéri est à moi et je suis à lui », ce qui rappelle l'échange dit des consentements. Je te reçois comme époux, épouse, et je me donne à toi. Un don et pas un dû. Une réjouissance et non une obéissance. Il n'y a pas de promesse d'obéissance dans le mariage, ni civil ni chrétien. Un bonheur simplement d'être ensemble dans la relation sexuelle ou tout simplement en prenant un petit déjeuner tranquille ensemble ou en se promenant dans les chemins crus de Vendée. Les END nous proposent, en ce sens, deux règles pour améliorer Eros, la règle de vie et le DSA.
Alors, la règle de vie, c'est quelque chose d'extrêmement simple. C'est essayer de progresser dans les petites choses de la vie. Par exemple, fermer son tube de dentifrice.
Ça, c'est pour moi, parce que je ne ferme pas. Il essaie de me dire qu'il faut vraiment que je prenne cette règle de vie, parce que ça l'embête, ce tube de dentifrice.
Alors après, il y a d'autres choses peut-être qui sont plus importantes. Par exemple, faire l'effort de ne pas critiquer l'autre, même quand il nous dit des choses qui nous correspondent pas. Vous voyez, c'est vraiment des petits gestes, parfois un peu plus grands. Et puis le DSA, ce qu'on nous apprend le DSA, le devoir de s'asseoir, c'est très important. Le devoir de s'asseoir, c'est on se met devant le Seigneur, on commence par prier et on traite de sujets. Il y a des sujets aussi qui sont plus importants, certains très importants et qui peuvent engager notre mode de vie. Et puis il y a des sujets moins importants comme qu'est-ce qu'on va faire pendant les vacances ou qu'est-ce qu'on va faire le week-end prochain. Mais c'est aussi quand même dans l'idée d'améliorer notre vie spirituelle.
La vocation du couple chrétien, donner à voir comment Dieu aime son Église. De quel Dieu parlons-nous ? Nous croyons en un Dieu aimant, toute miséricorde, toujours proche de nous, qui attend que nous le choisissions. L'importance du désir de Dieu pour chacun de nous et des désirs des époux l'un pour l'autre. Certains voient Dieu comme un juge sévère qui nous punit, qui nous domine, qui n'a tant que notre obéissance. Et je relis la première lettre de Saint Jean dont je vous parlais tout à l'heure. De crainte, il n'y en a pas dans l'amour. Mais le parfait amour jette dehors la crainte, car la crainte implique le châtiment, et celui qui craint n'est pas accompli dans l'amour. Nous nous aimons parce que Dieu le premier nous a aimés. Les propositions de contraception que propose l'Église ne sont pas toujours, et pour tous, adaptées à la situation. Les couples doivent choisir. Peut-être que vous avez entendu que le mot « choix » est capital pour nous. Les couples doivent choisir en conscience. C'est eux qui ont tous les éléments devant eux pour évaluer à deux, bien sûr, le meilleur pour eux à un moment donné, tout en laissant la question ouverte. Ceci impose d'avoir une bonne connaissance des choses et d'écouter. Dans le cas du diagnostic anténatal, qui a été une partie de mon métier, j'ai fait des échographies de grossesse pendant 20 ans. En 2002, j'ai arrêté cette partie de mon activité du fait de la répéruche. On ne va pas revenir longtemps là-dessus. J'ai trouvé que ce sont des examens qui sont très eugéniques. Mais dans le diagnostic anténatal, c'est la même chose. Il faut insister auprès des couples qui sont confrontés à l'avenir, enfin la venue probable d'un enfant ayant une différence, pour qu'ils choisissent. Choisissent sans être influencés ni par les médecins, parce que malheureusement les médecins vont pousser vers une interruption de grossesse pour éviter des procès, mais aussi ne se laissent pas influencer par qui que ce soit. C'est à eux, en conscience, le couple, en se renseignant et en prenant du temps à réfléchir sur l'acte qu'ils vont poser. J'insiste beaucoup et j'insistais beaucoup auprès de ces gens auxquels j'annonçais un enfant différent pour qu'ils se renseignent, qu'ils prennent vraiment les informations auprès des médecins compétents qui connaissaient ces maladies, ces affections, et aussi qu'ils réfléchissent en couple sans que personne ne décide à leur place pour leur personne permettre de vivre une vie heureuse, sans culpabilité. Le fils prodigue a fait un choix tout à fait discutable, mais son père l'accueille à nouveau, et l'accueille sans poser de questions. Chaque personne d'un couple qui se sépare, même avec un remariage après, est aimée de Dieu et pardonnée. Le fils prodigue, qui a fait un choix donc tout à fait bizarre, qui a dilapidé son argent de façon très discutable, n'a même pas besoin de demander pardon pour que son père se réjouisse. Et nous avons pensé que c'est le père du fils prodigue qui est probablement le meilleur exemple de l'agapé. On a essayé de se mettre, François et moi, à la place de ce père, et très clairement, on n'aurait pas été comme le père, on aurait été beaucoup plus virulent. Mais le Père du ciel nous attend, nous choisit, nous pardonne. Il faut le croire pour pouvoir avancer, à notre avis, dans la vie chrétienne. L'amour de Dieu, dit le prophète Osée, est gratuit. La loi de Dieu est donnée à la personne debout que nous sommes appelés à devenir chacun. Mais la personne n'est pas sous la dépendance de la loi.
Je reviens 30 secondes sur le devoir de s'asseoir. Tout à l'heure, on a reçu deux de nos enfants à la maison. Et puis Anne a discuté avec notre genre et notre fille. Et puis, il s'est avéré, sans doute, ils ont besoin de discuter. Et on leur a proposé de venir garder leurs deux jumelles un week-end pour leur permettre, alors peut-être pas un devoir de s'asseoir en tant que tel, mais en tous les cas, pour pouvoir discuter.
Enfin, on a parlé du DSA. Ah oui, oui, maman, je sais.
Dès le livre de la Genèse, Dieu qui est amour crée l'homme à sa ressemblance. Dans le chapitre 1, Dieu créa l'humain à son image. C'est plus l'humain que l'homme. À l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Et dans le verset 28, Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. » Ce qui signifie aussi qu'à la ressemblance de Dieu, l'homme soumet la terre. Le chapitre 2 de la Genèse complète le premier. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière prise du sol, Adama, la glaise. L'homme n'est pas encore sexué. Le jeu apparaît quand l'humain devient homme et femme et dit « tu » et « vous » et « nous ». Nous sommes à la ressemblance de Dieu quand nous vivons en relation les uns avec les autres. La relation avec les autres, c'est quelque chose de fondamental. Le Seigneur Dieu plante un jardin en Éden. Et dans ce jardin, deux arbres, peut-on lire donc au début de la Genèse. L'arbre de vie, qui est l'arbre de l'acquisition de la sagesse divine, comme nous le dit aussi le livre des Proverbes, dans le chapitre 3, verset 18. L'arbre de vie, c'est la sagesse pour ceux qui la saisissent, et bienheureux ceux qui la tiennent. L'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, non pas l'arbre du bien et du mal, qui a une connotation morale, l'arbre de ce qui est bon ou mauvais. Le livre du Deutéronome, comme Anne l'a dit tout à l'heure, précise cette idée de ce qui est bon ou mauvais pour nous tous. Et puis vient la création de la femme, et en même temps de l'homme, qui se conclut au verset 24, « Aussi l'homme laisse-t-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviennent une seule chair. » L'homme et la femme sont donc appelés à l'amour et à s'unir dans l'acte sexuel. Jean-Paul II, dans son exhortation apostolique, nous dit « Puisque l'homme est un esprit incarné, c'est-à-dire une âme qui s'exprime dans un corps, et un corps animé par un esprit immortel, il est appelé à l'amour dans sa totalité unifiée. Le mariage est le lieu d'expression de cet amour dans sa totalité. La sexualité fait partie de cet amour. » Déjà, dans l'Ancien Testament, nous comprenons que l'amour d'un homme pour sa femme est l'image de Dieu, de l'amour qui unit Dieu à son peuple. Ainsi, en Osée, dans le second chapitre, « Eh bien, c'est moi qui vais la séduire, et elle répondra comme au temps de sa jeunesse. Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai à moi par la justice et le droit, l'amour et la tendresse. » Jésus est venu sur la terre à la demande de son Père pour nous sauver. Il est le signe même de l'amour de Dieu, notre Père, pour nous, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ce qui est vrai de Jésus comme de son Père. Comme Israël était l'épouse de son Créateur, Jésus est l'époux de l'Église. Jean-Paul II, lui, dans des termes édifiants, le mariage des baptisés devient ainsi le symbole réel de l'alliance nouvelle et éternelle scellée dans le sang du Christ. L'amour conjugal atteint cette plénitude à laquelle il est intérieurement ordonné, la charité conjugale. Celle-ci est la façon propre et spécifique dont les époux participent à la charité du Christ, se donnant lui-même sur la croix, et sont appelés à la vivre. Le mariage chrétien est un sacrement. Commençons par dire que des chrétiens authentiques ont fait le choix du pax ou du mariage civil. Ils le font parfois à titre provisoire, dans le respect profond du sacrement. Nous n'avons pas à juger. Le code de droit canonique nous dit que les sacrements sont des actions du Christ et de l'Église, des actes d'alliance qui unissent au Christ par l'action du Saint-Esprit. Il relie les hommes à Dieu et à leurs frères par le plus intime d'eux-mêmes et incorpore à l'Église, nous disent les évêques de France dans leur catéchisme. Les sacrements sont les signes invisibles de la grâce invisible. Les sacrements sont célébrés dans l'Église de manière publique au cours d'une liturgie, mais comportent une dimension profondément humaine. Les symboles très incarnés se retrouvent dans les rituels des sacrements. Jésus, par les signes qu'il réalisait, les guérisons, le pardon des péchés, la nourriture des foules par exemple, est à l'origine lui-même des sacrements, qui peuvent puiser leurs racines aussi dans l'Ancien Testament. Ces miracles requièrent la foi de ceux à qui ils s'adressaient. Les sacrements se conçoivent dans la présence vivante du Christ en son Église. Ainsi, le sacrement de mariage sanctifie l'union de l'homme et de la femme. Le sacrement de mariage se donne lors d'une célébration comportant au moins l'écoute de la parole de Dieu, le Notre Père, et la bénédiction nuptiale. Il est célébré au cours d'une messe. Lorsqu'il est célébré au cours d'une messe, cela a un sens important, qui est malheureusement, à mon sens, oublié de nos jours. Car il rappelle l'union du Christ à l'Église, l'Eucharistie étant le sacrement de la Nouvelle Alliance. La bénédiction des alliances symbolise l'alliance de Jésus à son peuple. Une chose importante, ce sont les époux eux-mêmes qui se donnent le sacrement de mariage. Ils le font devant leur témoin, et le témoin entre guillemets autorisé de l'Église, qu'est le prêtre ou le diacre, qui conclura désormais « Vous êtes unis par Dieu dans le mariage ». Le rituel du mariage demande un engagement en couple dans l'Église. Au sujet du diaconat, il devrait favoriser l'engagement en couple dans l'Église, déjà pour veiller au sacrement de mariage des diacres, ce qui n'est pas toujours facile. L'engagement des époux s'appuie sur quatre piliers fondamentaux. La liberté de consentement, la liberté c'est très très important, l'indissolubilité, la fidélité et l'ouverture au don de la vie. La liberté de consentement, aucun des deux ne doit se sentir forcé de se marier. Il implique une certaine maturité. Des déclarations de nullité parfois sont justifiées par ce manque de maturité. L'indissolubilité, tout couple marié l'est pour la vie. Le mariage peut être déclaré nul si les trois autres piliers n'ont pas été respectés. La fidélité, qui s'appuie sur le sacrement du pardon et la réconciliation. C'est le pardon et la réconciliation en couple, bien sûr. L'ouverture au don de la vie, les époux s'engagent, dans la mesure physique du possible, à créer une famille. Ceci sous-entend l'éducation des enfants et l'ouverture aux autres. En ce qui concerne l'indissolubilité et la fidélité, il est éclairant de reprendre le texte de Matthieu 19.
Tandis que Jésus montait à Jérusalem, des pharisiens s'avancèrent vers lui et lui dirent, pour lui tendre un piège, « Est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement les fit mâles et femelles, et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. » Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ils lui disent, pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de délivrer un certificat de répudiation quand on répudie ? Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Je vous le dis, si quelqu'un répudie sa femme, sauf en cas d'union illégitime et en épouse une autre, il est adultère. Les disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme envers sa femme, il n'y a pas intérêt à se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas ce langage, mais seulement ceux à qui c'est donné.
Jésus donne toute son importance à l'amour créateur de notre Père, sans lequel ne peut exister l'amour de l'homme et de la femme. Dieu souhaite que nous nous aimions hommes et femmes, comme lui nous aime, à l'image de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, qui forment la perfection de l'unité. Nous prenons ainsi part à cette unité divine. Le discours de Jésus est affirmatif, même si une lecture rapide nous ferait croire le contraire. Il demande à l'homme de quitter ses parents, de s'attacher à sa femme et qu'il ne fasse plus qu'un.
Parfois dans un couple, le don est considéré comme un dû, et la relation devient plus de l'ordre de l'obéissance que de la joie. Personne ne promet l'obéissance ni dans le mariage civil ni dans le mariage religieux. Et il y a des couples où l'un anéantit l'autre, physiquement ou psychiquement. Mais où est alors le sujet, la personne debout et libre que Dieu demande à chacun de devenir ?
Soyons attentifs aux situations particulières. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux, plein d'amour et de fidélité, gardant sa promesse de rester avec nous jusqu'au bout, malgré nos chemins bien souvent tortueux. Nous allons maintenant vous parler de la famille. Dans une audience aux équipes Notre-Dame en septembre 2015, comme de nombreuses autres fois d'ailleurs, notre pape François a insisté sur l'importance de la famille. Une famille heureuse, équilibrée, habitée de la présence de Dieu, parle d'elle-même de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Les couples chrétiens sont donc invités à créer une famille. En se donnant l'un à l'autre, les mariés donnent naissance à leurs enfants et reçoivent de Dieu la responsabilité de leur éducation. La relation sexuelle, même si elle ne conduit pas automatiquement à une nouvelle vie, est orientée vers la naissance. La relation sexuelle n'est pas un enfermement sur soi-même, mais ouverture au monde et à un futur possible. Les enfants, par leur baptême, puis leur éducation chrétienne, vivront intimement leur vie dans l'Église. Jean-Paul II nous dit « Le mariage et la famille chrétienne construisent l'Église ». Ce sont les parents qui sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants. À eux de trouver les lieux qui correspondront le mieux à leur choix d'éducation. La famille est une communauté profonde de vie et d'amour. Pouvons-nous lire dans « Gaudium et Spes », la constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps. Elle a la mission de garder, de révéler et de communiquer l'amour, nous dit aussi Jean-Paul II. Nous croyons que la famille reçoit du Christ la grâce nécessaire pour témoigner de l'amour de Dieu et vivre la vie de communion. C'est dans la famille que l'enfant va apprendre à aimer les autres, à les respecter, qu'il va apprendre à demander pardon et à se réconcilier avec les autres. C'est dans la famille qu'il va découvrir sa propre place qui lui permettra de s'aimer soi-même, puis les autres, et apprendre l'ouverture et la relation aux autres telle que nous l'a appris Jésus. C'est dans la famille que l'enfant pourra apprendre à connaître Jésus, tout en sachant que les parents n'ont nullement la possibilité de donner la foi à leurs enfants qui leur est donnée par le Seigneur. C'est dans la famille que l'enfant apprendra le sens des responsabilités et la valeur de la liberté. C'est dans la famille que l'enfant apprend aussi le respect des plus fragiles, de la conception à la mort. C'est dans la famille que les enfants peuvent découvrir que l'amour de Dieu s'adresse aussi et peut-être plus encore aux enfants handicapés. Mais nous savons que cette situation est parfois très douloureuse et je ne me permettrai pas de donner des conseils à ce sujet. Des familles sont parfois détruites après l'arrivée d'un enfant handicapé, peut-être aussi parce que nous n'avons pas su nous-mêmes être là quand nous aurions dû y être. Rappelons-nous que l'autorité n'est pas l'autoritarisme et que ce mot signifie « qui fait grandir ». Il nous semble qu'une famille dont les enfants ont choisi des parcours différents est une famille où s'est vécue la liberté, même et surtout si les parents se questionnent parfois sur leur choix. Ça arrive bien souvent. C'est dans la famille que les enfants découvrent la prière. N'oublions pas aussi le rôle important des grands-parents. Nous le découvrons tous les jours. La famille a certainement parfois aussi le devoir de se protéger, tout en restant ouverte à la société telle qu'elle est. Nous sommes là sur une ligne de crête, demandant un surdiscernement. On est souvent sur une ligne de crête. Jésus lui-même est né dans une famille, en a connu d'autres, a écouté les souffrances des parents. Il a été sensible au désir des enfants, sachant leur laisser la première place. Il a lui-même travaillé avant d'inaugurer sa vie publique par un miracle aux noces de Cana. En prenant exemple sur la Sainte Famille de Nazareth, le pape François nous dit « Toute famille, malgré sa faiblesse, peut devenir une lumière dans l'obscurité du monde. »
Marie, Joseph et Jésus, une famille mystérieuse. Est-ce une famille modèle ? L'Église nous dit que pour qu'un sacrement de mariage soit valide, il faut un mariage dit consommé, c'est-à-dire avec des relations sexuelles ouvrant à l'arrivée d'un enfant. Cependant, et heureusement, on parle plus de Joseph, car il est bien difficile d'élever un enfant quand on est seul. Être enfant unique n'est pas la situation idéale. Les frères et sœurs sont une richesse. L'Église elle-même insiste pour l'accueil de plusieurs enfants. La famille idéale n'existe pas. Tous les chrétiens, quelle que soit leur situation, célibataires, religieux, religieuses, mariés, sont en responsabilité de leur propre famille.
C'est vrai que le sens de la famille de Nazareth ne nous paraît pas si simple que ça. Il nous semble que ça mériterait d'être approfondi. La famille ne peut pas toujours être associée au couple. Il existe un nombre important de familles monoparentales, de familles recomposées, pouvant vivre elles-mêmes aussi une vie chrétienne authentique. En Église, nous nous devons d'être attentifs aux couples ou aux familles en souffrance. Les conflits intergénérationnels existent bien souvent. De nombreuses familles vivent l'épreuve de la séparation, du divorce, et une vraie écoute est indispensable. Ne jugeons pas. Les choix professionnels ou de vie des enfants, j'allais dire de nos enfants, ne sont pas souvent ceux des parents, et peut-être tant mieux. Parce que tout le monde ne semble pas être au courant, je veux souligner qu'il n'y a aucun obstacle à ce que des conjoints séparés, s'ils ne vivent pas avec un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne, puissent être admis à recevoir les sacrements, particulièrement le sacrement de la réconciliation et de l'Eucharistie. Je veux aussi rappeler que dans l'Église, le dernier ressort de nos choix est notre conscience. De nombreuses familles, et de plus en plus de nos jours, vivent la souffrance de la difficulté d'avoir des enfants. Sans juger, et c'est bien souvent difficile, apportons notre soutien à ces familles qui ont besoin de réflexion et accueillons des choix qui ne sont pas forcément les nôtres. Sachons aussi accueillir les familles qui décident d'être fidèles aux propositions de l'Église.
Mon métier me fait participer à la procréation médicalement assistée, puisqu'on fait des échographies dans ce domaine. Je pense qu'il serait important de préciser les différents types de PMA avant de donner le moindre avis. Pour ma part, participer à la PMA n'est pas un problème de conscience comme l'étaient les problèmes de suivi de grossesse. Il faut savoir voir une différence entre une stimulation ovarienne, c'est une procréation médicalement assistée, et un don de sperme qui est quand même une chose assez différente. Mais de toute façon, qui suis-je pour juger ? J'ai eu une énorme chance d'avoir 6 enfants. Il se trouve qu'une de nos filles a eu une grosse difficulté à avoir des enfants, et donc je n'ai pas de jugement à émettre sur ce que choisiront les gens que j'accompagne.
Tout en conservant les convictions qui sont les nôtres, sachons de ne pas nous mettre en conflit avec nos enfants ou les membres de notre communauté paroissiale. Il existe des structures qui sont là pour nous aider. Nous connaissons pour beaucoup le clerc. Il y a des parents qui sont là dans la paroisse, par exemple, pour apporter une éducation sexuelle dans le respect des propositions de l'Église. Et peut-être moins connu, le cabinet Raphaël, dont il existe une représentante à Nantes. Les cabinets Raphaël, qui existent un peu dans toute la France, ont été créés à la demande du pape Jean-Paul II pour venir en aide aux couples ou aux familles en difficulté. Et il s'agit de conseillères conjugales et familiales qui sont professionnellement des conseillères conjugales et familiales, mais qui vont aider dans un esprit chrétien les couples ou les familles qui le souhaitent. Il existe aussi la pastorale familiale, naturellement, et des mouvements qui sont là pour aider les familles. Les équipes Notre-Dame, les équipes Tandem, Alpha Couple, Vivre et Aider, et beaucoup d'autres. Voilà ce que nous voulions vous dire.
Nous sommes prêts à partager avec vous.
Oui. J'avais prévu de lire la charte, mais je ne l'ai pas là. Du coup.
Nous avons lu beaucoup de choses de l'Église.